Donc, en fait, une question importante qui se pose, c'est dans quelle mesure la crise économique actuelle remet-elle en cause les politiques engagées en France pour relancer et pour stimuler la croissance. Dans le rapport que nous avions fait avec Jean Pisani, Gilles Berset et Élie Cohen sur les leviers de la croissance française, nous mettions en évidence un certain nombre de réformes qui devaient être entreprises pour que la France puisse gagner un point de croissance sur le long terme. Et les réformes dont on avait parlé, eh ben, c'était d'abord l'éducation supérieure, où on mettait l'accent sur le fait qu'il fallait injecter au moins un demi-point de PIB par an de plus. On disait en fait 0,7 de PIB par an de plus dans l'université, accompagné d'une réforme visant à l'autonomie, donc, mais qu'il fallait là, vraiment une combinaison de l'autonomie et de moyens supplémentaires. Il fallait également réformer les marchés du travail et des biens, les rendre plus flexibles. Et pour ça, il fallait dépenser notamment pour mettre en place un service de l'emploi bien doté, et puis pour vraiment procéder à la mise en place d'une flexécurité à la française. Et que toutes ces réformes, en fait, coûteraient en fait 1,3 de PIB au total. Mais qui évidemment petit à petit serait résorbé par la croissance supplémentaire générée par ces réformes. Alors évidemment, la question est de savoir est-ce que la crise économique actuelle remet en cause elle le rend plus difficile évidemment de financer les réformes. Mais je crois que là, il va être important que la France et d'autres pays européens se mettent d'accord pour en fait pouvoir, disons, c'est pas ignorer les critères de Maastricht, mais c'est tenir compte de la crise actuelle et de dire nous devons faire un certain nombre d'investissements dans les réformes structurelles, nous devons investir dans l'éducation supérieure, dans la flexibilité du marché du travail. Et pour faire ces réformes-là, ben, nous devons donc faire certaines dépenses et ça nous amène à un déficit plus grand que prévu, étant donné la crise financière. Donc, je crois qu'à partir du moment où les réformes sont le meilleur moyen de devenir solvable à long terme et de générer de la croissance de long terme, je pense que c'est un bon dossier à défendre devant les partenaires européens que de dire, eh bien voilà, nous devons, si, dans la mesure où les dépenses sont consacrées disons, à l'économie de la connaissance et à l'amélioration de notre appareil productif et à notre capacité de croissance et d'innovation, eh bien à ce moment-là, nous devrions être autorisés à faire ces dépenses. Donc, je crois que là, il y aura un débat à tenir. Donc, ça, c'est le premier aspect que je voulais souligner. Il y a un autre aspect dont je voulais parler, c'est qu'on peut dire, voilà, quelles sont les crises, quel est l'impact de moyen et de long terme de la crise financière? Je pense qu'il y aura certainement un impact à 2 ou 3 ans. Les entreprises font face à un double problème. D'abord, c'est ce qu'on appelle le credit crunch, c'est-à-dire que bah, le fait que le crédit est raréfié, c'est mauvais pour les entreprises, c'est mauvais pour les achats de biens durables, et donc ça se répercute également sur la demande des produits pour les entreprises. Donc ça aura des conséquences, à mon avis, durablement, pour au moins deux, trois années. Maintenant, à plus long terme, effectivement, il va y avoir des mesures qui vont être prises pour réglementer le système financier davantage qu'il n'a été par le passé. On parle beaucoup disons, de réglementation pour des banques universelles, c'est-à-dire pas juste réglementer les activités de banque commerciale, mais élargir les accords de Bâle pour que ça couvre toute activité de banque d'investissement. Donc il va y avoir un certain nombre de réglementations. Évidemment, il y a toute la question de savoir est-ce que la réglementation financière est au détriment, est bonne ou mauvaise pour l'innovation réelle. En fait, souvent, les gens disent, voilà, l'innovation financière accompagne l'innovation réelle, et tout ce qui peut entraver l'innovation financière peut entraver l'innovation réelle. Donc là, je crois qu'il y a une question, un sujet de recherche intéressant à considérer, mais toute la question est de savoir jusqu'où réguler et jusqu'où ne pas trop, ne pas jeter le bébé avec l'eau sale du bain, c'est-à-dire qu'on ne veut pas revenir sur toutes les réglementations. Il y a un peu un danger de la crise que ça amène des gens à dire, voilà, tout ce qui est libéralisation, marché du travail, marché des biens, est une mauvaise chose. Et qu'il faut revenir disons, au protectionnisme, au colbertisme et mettre un terme, disons, que tout ce qui est libéralisation est mauvais par nature. Et je crois que là, il va falloir faire la part des choses. Il y a certainement qu'il faut mettre des règles du jeu, un code de la route, surtout dans le secteur financier. Mais en même temps, je crois que l'idée qu'il faut avoir une flexibilité maîtrisée des marchés est une idée très importante. Alors finalement, je voulais développer un autre point de vue, enfin, une idée que je pousse en ce moment, qui est la chose suivante. Je crois que les grands leviers de la croissance, sont de trois ordres. Je crois qu'il y a d'abord un levier qui est l'économie du savoir. Je crois que nos économies, pour pouvoir croître durablement et faire face à la concurrence des pays émergents, ont besoin d'investir dans le savoir. Donc, d'où l'importance des investissements en éducation, en recherche. Je crois que maintenant, c'est très bien compris. C'était une nouveauté quand on en parlait avec Elie Cohen dans le rapport pour le CAE sur éducation et croissance. Je crois que maintenant, c'est devenu une idée très, tout à fait acceptée et admise. Mais je crois qu'il est important de bien faire ces réformes. On peut parler disons, des bons et des mauvais côtés de la réforme Pécresse. Et je crois que, bon, et là, donc il y a tout un pan qui est l'économie du savoir et l'économie de la connaissance. Je crois qu'il y a un deuxième levier qui est donc celui des réformes structurelles. Il faut libéraliser et donner de la flexibilité au marché, du travail, des produits, créer un vrai service de l'emploi, un vrai système de flexécurité. Et donc là, bon, c'est en partie le gouvernement met ça en œuvre un peu avec la LME, mais de manière partielle. Et sur le plan des contrats de travail, pas grand-chose a été fait jusqu'à maintenant. Et donc je crois que ça, ce sont des chantiers qu'il faut encore largement, ils sont largement en friche et auxquels il faut largement s'attaquer. Je crois qu'il y a un troisième niveau qui est très important et qui, lui, a été totalement ignoré jusqu'à présent par le gouvernement, c'est l'aspect confiance. Je crois que des études, en fait, j'ai participé à certaines de ces études avec Pierre Cahuc, Yann Algan et André Schleifer, un collègue de Harvard, où on montre qu'en fait, les pays qui déréglementent et libéralisent leur marché durablement sont des pays, comme les pays scandinaves, où il y a une confiance entre employeurs et employés, entre État et administrés, où les gens ont confiance dans leurs institutions, ont confiance dans les relations de travail. Et je crois qu'un des gros problèmes en France, c'est le manque de confiance. En fait, toutes les enquêtes montrent que l'atmosphère sur le lieu de travail est très mauvaise comparée à d'autres pays et qu'il y a d'une manière générale, disons, un déficit de confiance. Donc je crois que, et le problème, si nos études ont montré que non seulement les pays qui déréglementent davantage sont des pays où la confiance est plus grande, mais en même temps que si on déréglemente brusquement dans des pays où il n'y a pas la confiance, eh bien, on détruit la confiance au lieu de la créer, quoi. Et c'est l'expérience notamment de certains pays en transition qui ont déréglementé brusquement sans investir dans la confiance en parallèle. Et je crois que c'est très important d'investir dans la confiance. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut paraître très abstrait, mais je crois que ça veut dire investir dans les relations de travail. Par exemple, pousser pour que les partenaires sociaux dialoguent, pousser pour la représentativité des syndicats, pour des syndicats forts et représentatifs qui dialoguent avec les patrons. Je crois que c'est également pousser à ce que les administrés, les citoyens participent à la vie du pays, puissent évaluer à leur niveau les réformes entreprises, de leur évaluation et une sanction démocratique de ces réformes. Et je crois que c'est toute une pratique nouvelle à développer en France, toute une nouvelle conception de l'action publique et également une conception du rôle de l'État dans les négociations entre partenaires sociaux. Je crois que sur ces deux fronts-là, aider et inciter les agents à rentrer dans des relations de confiance plutôt que de se substituer au dialogue social et se substituer à l'évaluation démocratique des réformes. Je crois qu'il y a dans ce domaine un gros investissement à faire et je crois que ça, c'est un aspect qui est totalement ignoré jusqu'à maintenant par le gouvernement. Penser qu'on s'accommode de syndicats faibles pour pouvoir faire des réformes structurelles, c'est une vision de très très courte vue. parce qu'en fait, c'est des réformes qui sont pas appelées à durer. Des réformes de déréglementation durable sont des réformes qui sont en fait approuvées, quoi, et qui ont par les partenaires sociaux, qui sont intégrées par les partenaires sociaux. Donc, je crois que là, il y a toute une réflexion à mener, comment arriver vers l'équilibre suédois, je veux dire, ou l'équilibre scandinave, c'est-à-dire passer d'un système qui était très réglementé, avec peu de confiance, avec un système avec des marchés plus flexibles, mais en même temps où s'installe la confiance. Donc je crois que là, il y a à mon avis une réflexion à mener très importante. Il y a un autre aspect également important qui n'a pas été traité jusqu'à maintenant, c'est vraiment la fiscalité de la croissance. Quel genre de fiscalité il faut pour une économie innovante? Et je crois que c'est un aspect qui a été mis de côté. Quand il y a eu le rapport Attali, qui est un peu un successeur du rapport sur les leviers de la croissance, on a mis de côté le débat fiscal, parce qu'on ne voulait pas déplaire au gouvernement en traitant du problème fiscal. Mais je crois qu'il va falloir en France sérieusement poser le problème de quelle fiscalité pour la croissance que nous voulons. Et je crois que c'est un grand. Là, quelques remarques que je voulais faire pour introduire à vos discussions, qui je suis sûr seront passionnantes. Voilà. Je suis désolé de ne pas être des vôtres et de participer aux discussions. Merci, au revoir.